Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire.
Enerko Amag, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous bimensuel des émissions consacrées à la vie de la coopérative Enerkoa. Moi je suis aux manettes, c'est Andrea, et ce matin j'ai le plaisir d'inviter l'ex-directeur général de notre coopérative, parce que nous avons là une émission où nous allons parler plutôt démocratie sociale, et donc l'invitation de l'ex-directeur général. Et parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de clarifier un tout petit peu quelque chose, notamment on entend beaucoup parler ces derniers temps de démocratie, de gouvernance partagée, pardon, excusez-moi, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est la gouvernance partagée. Yves, s'il te plaît.
Oui, bonjour Andrea et bonjour à tous. Et donc, oui, on parle de gouvernance partagée, il faut peut-être déjà expliquer ce que c'est que la gouvernance. C'est un mot qui apparaît dans le champ des entreprises, notamment l'économie sociale et solidaire, et qui vient plutôt, et qui s'adressait plutôt aux grandes institutions nationales, internationales ou régionales. Pour moi, la gouvernance, c'est la façon dont on prend des décisions. Voilà. Ça peut être une façon très verticale ou une façon très horizontale. Pour Enerkoa, qui appartient au champ d'économie sociale et solidaire, depuis le début, c'est une gouvernance partagée avec les coopérateurs et notamment avec les administrateurs. Voilà. Donc voilà, comment est-ce qu'on prend les décisions à Enerkoa, hein? Alors il y a trois éléments importants pour savoir comment on partage ces décisions. Il y a nos statuts qui nous fournissent un certain nombre d'organes, l'Assemblée Générale, le Conseil Coopératif. Il y a des outils qu'on a mis en place, des comités pour préparer les décisions, comité technique, comité financier, comité pour la communication. On a un comité qui rassemble les animateurs de ces trois comités, qui serait une espèce de conseil de direction, pratiquement. Voilà. Et en général, on a toujours essayé, toutes les décisions importantes ont été prises collégialement. Voilà. Il nous faut donc un cadre général, des statuts, il nous faut des organes, que je viens de citer, mais il nous faut aussi des bonnes pratiques. Un certain nombre de ces bonnes pratiques sont mises en œuvre. D'autres pourraient mériter de l'être pour que, justement, dans la nouvelle période où nous allons, c'est une période où il n'y aura pas directeur général, il y aura un président et des directeurs délégués, des gens qui auront la signature sur ces trois thèmes. Il va falloir qu'on travaille encore davantage à partir de bonnes pratiques à la décision collégiale.
Oui, alors, moi, avant de parler d'outils et de pratiques, j'aimerais quand même savoir précisément quelle est l'origine de ces concepts de gouvernance partagée. On le trouve où avant Enerkoa, par exemple.
Alors, je l'ai un petit peu indiqué tout à l'heure. Le mot de gouvernance appliqué aux entreprises, c'est relativement récent. Moi, je dirais une vingtaine, une trentaine d'années. Ce mot de gouvernance, comme le mot de management, ça vient de mots français en fait. Hein. Gouvernement, on le retrouve dans gouvernement. Dans le management, on retrouve ménage, hein, sémantiquement. Voilà. À la limite, peu importe d'où ça vient, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça signifie pour nous et pourquoi est-ce que ce mot-là a été adopté dans les coopératives et dans toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Ça s'oppose un peu à des modes de décision ou de gouvernement, qui seraient verticaux, qui seraient liés à des personnalités charismatiques, légitimes, parce qu'elles auraient la majorité des actions. Je rappelle qu'à Enerkoa, c'est un homme, une voix. Donc il faut trouver un système qui permette de prendre des bonnes décisions pour la pérennité de la structure, et en même temps qu'il soit partagé. C'est beaucoup plus facile d'être tout seul à prendre des décisions. Ce n'est pas le choix de gouvernance que nous avons choisi, nous avons fait.
D'accord, alors, effectivement, tu as fait allusion tout à l'heure à des outils, si on peut les appeler comme ça, dont il faut se doter pour pouvoir appliquer des bonnes pratiques de gouvernance. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot pratique de gouvernance?
Alors, les outils ou les instances, je les ai cités tout à l'heure, il y a celles qui sont statutaires, hein, l'AG et le Conseil coopératif, et celles qu'on a mis en place au niveau opérationnel. Les fameux comités qui sont des outils de préparation ou d'aide à la décision. Ensuite, il y a les pratiques. Parce que quels que soient les outils et le statut, les pratiques, c'est les comportements.
D'accord.
Ce sont les comportements. Voilà. Mmh. Par exemple, les bonnes pratiques, c'est dans l'animation des réunions. Une réunion, on peut très bien passer des heures et des heures sans jamais prendre la décision, et la décision sera prise ailleurs. On voit ça dans de très nombreuses organisations, y compris dans les entreprises. Donc une bonne pratique, c'est par exemple une bonne pratique d'animation des réunions. Ce qui suppose que dès le démarrage, on s'interroge sur comment est-ce qu'on va animer cette réunion, comment est-ce qu'on va prendre une décision. Et justement, une bonne pratique, par exemple, ça a été de travailler, il y a un groupe qui s'est mis en place, je crois, Andréa, que tu en as fait partie, pour travailler sur une charte de fonctionnement et définir des bonnes pratiques. Par exemple, je l'ai relu il n'y a pas longtemps, pour prendre une décision, ce qui est privilégié, c'est l'unanimité. L'unanimité, ça veut dire que tout le monde doit être convaincu que la décision est la bonne. Donc ça veut dire qu'il faut faire de la pédagogie en amont, qu'il faut expliquer. Il n'est pas question qu'un expert dise « c'est bon, croyez-moi ». Ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Ensuite, si jamais il n'y avait pas d'unanimité, la charte propose une décision par consentement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un a une objection, il faut travailler à lever cette objection. Et enfin, si on n'arrive pas à produire la décision avec cette deuxième proposition, on ira à la majorité. Il peut être, peut-être qu'on aura, comme dans notre système public, d'État, 50% des gens qui seront opposés. Tu comprends que ce ne sera pas la meilleure des décisions possibles. C'est beaucoup plus intéressant d'emmener l'ensemble des administrateurs, d'arriver à les convaincre que la décision qu'on va prendre, qui sera amendée justement par la discussion, est la meilleure possible pour la structure. Voilà. Ce qui a été fait dans la charte, et ces trois propositions, ce sont pour moi des bonnes pratiques.
Et donc, nous allons, comment dirais-je, utiliser ces pratiques dans le futur. Quels sont les garde-fous, les garants que ces pratiques-là sont, respectées, sont adoptées par tous?
Alors, il va dépendre des administrateurs qui sont maintenant en charge, puisqu'il y a plus de... Je portais cette fonction en tant que directeur général, de veiller à ce qu'il y ait de la cohésion entre nos différentes instances de décision, entre les différents projets, etc. Ça va reposer sur l'ensemble des administrateurs, ça va reposer aussi sur le président, en attendant qu'on ait peut-être un directeur général. Je signale qu'on est quand même tous d'accord maintenant, et on pense que la structure est mature pour en recruter un directeur général, qu'on se le dise, voilà. Mais je pense qu'on aura peut-être besoin de formation.
C'est à quoi je pensais. Quand tu parlais tout à l'heure de pédagogie, j'ai quand même l'impression qu'on ne va pas pouvoir faire l'économie de travailler un tout petit peu pour que les esprits soient tous conscients de cette nécessité d'avoir la plus large collégialité possible. D'adhésion notamment aux décisions.
Tout à fait. Et quand on a démarré le travail en 2018-2019 sur les statuts de la coopérative, on a été accompagné par une association qui s'appelle Éclair, qui avait été commanditée par Ouest Aviron Communautaire. Voilà. Et on a été formé à la décision par consentement. Et ça nous a permis, entre élus, citoyens et techniciens, d'abandonner nos statuts ou nos pouvoirs et d'être vraiment dans qu'est-ce qui est bon pour le futur de la coopérative. Et si j'avais une objection, je devais l'argumenter et le groupe travaillait à lever cette objection, c'est-à-dire à trouver des solutions pour que je puisse voter pour. Et on a fonctionné comme ça et ça nous a aidé à produire les statuts et à lancer la coopérative et les statuts que j'ai déposés en novembre 2019.
Très bien, mon ami. Je te propose une toute première petite pause. Parce que là, il faut qu'on aille vers des achats intelligent, et tu vas comprendre ce que Janis Joplin va nous dire.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
Voilà, Jonice qui nous rappelait qu'on peut encore faire des achats intelligents, n'est-ce pas? Donc nous revenons à notre sujet du jour, la gouvernance partagée, les pratiques. Moi j'ai une question quand même. Il faut quand même qu'on soit certain qu'il n'y ait pas d'obstacle à la mise en place de cette pratique. Et est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a des obstacles à la gouvernance partagée, Yves ?
Bien sûr. Tu poses une bonne question, mais si tu permets, j'aimerais aller un petit peu plus loin sur... Mais au fait, pourquoi une gouvernance partagée ? Dans quel but ? Et je voudrais, avant de regarder les obstacles, énoncer un peu cette motivation à aller vers quelque chose qui est beaucoup plus difficile qu'une gouvernance verticale classique qu'on a dans les entreprises. La première raison, c'est qu'on s'est inscrit dans la philosophie de l'économie sociale et solidaire, avec un côté citoyen. Et ce côté citoyen, ça veut dire que chacun puisse mettre en œuvre le petit pouvoir qu'il a et le mettre au service de la collectivité. Et il y a une philosophie qui va plutôt vers ce qu'on t'a appelé la démocratie sociale tout à l'heure, c'est-à-dire des décisions partagées. C'est la première raison. Mais aussi, pour garder notre motivation. Pour moi, la gouvernance partagée, ça permet à chacun de se sentir utile, d'amener sa contribution, son regard, qu'il soit technique, financier, philosophique, spirituel ou autre, d'amener d'arriver avec son approche et d'aider à améliorer la décision. Donc pour moi, partager la gouvernance, partager la décision, c'est nous permettre de garder l'envie de continuer à bosser ensemble. Un collectif où il y aurait deux personnes qui décident, on le voit dans les associations, il y a beaucoup de gens qui s'en vont parce qu'à un moment donné, ils se demandent à quoi ils servent. Mmh. Donc c'est la deuxième chose pour... voilà.
Donc en fait, c'est laisser à tous la possibilité de participer à la réflexion.
Je crois que c'est la définition de la coopérative.
D'accord, très bien.
Coopération.
Voilà. Exact.
Et je n'ai pas fini, si tu permets. Hein, voilà. C'est aussi l'occasion de continuer à apprendre, parce que cette coopérative qui est notre but, pour moi, c'est un objectif. On n'y est pas. On n'a pas été formaté ni à l'école, ni dans nos entreprises, à coopérer. On est formaté tous les jours à faire du chacun pour soi et à être dans la compétition.
De plus en plus, oui.
Donc c'est aussi cette expérience. Et moi, c'est ce qui m'a motivé quand West Aveyron Communauté a lancé ce projet. J'étais un peu sidéré. Je me suis dit, mais ça ne correspond absolument pas au fonctionnement politique classique de nos collectivités. Mais en tout cas, la coopérative, je vais en être. Voilà. Et si j'ai accepté d'assumer pendant 5 ans la tâche que tout le monde sait, se doute qu'elle était quand même assez lourde, de direction générale, c'est pour tenter cette expérience coopérative. Donc ça, c'est une des motivations de la gouvernance partagée. S'il n'y a pas de gouvernance partagée, il n'y a plus de coopérative. Et peut-être pour un certain nombre de personnes, dont moi, ça n'aura pas beaucoup de sens. Voilà. La gouvernance partagée, c'est aussi... Ça permet aussi de bénéficier de l'intelligence collective, ce qui est un mot qui est apparu aussi dans le champ de la gouvernance depuis quelque temps. L'intelligence collective, ça repose sur l'idée qu'il y a personne ne peut prendre une bonne décision tout seul. Il faut forcément bénéficier du regard des autres. Voilà. Et on a de la chance. On a beaucoup d'intelligence dans le conseil d'administration, avec des gens qui ont des profils différents. Et ce serait vraiment très dommage de ne pas pouvoir en bénéficier.
Donc, il faut lever les obstacles.
Alors, quels sont-ils ? Pour moi, le premier obstacle, c'est le formatage qu'on a eu, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est plutôt individualiste, plutôt centré sur nous-mêmes que sur les autres. Le deuxième obstacle psychologique, ce sont les égos envahissants, c'est-à-dire ce besoin terrible de reconnaissance, de se mettre en avant, d'occuper le champ, d'envahir le champ de la parole. Voilà. Les bonnes pratiques de la gouvernance, justement les bonnes pratiques de réunion, permettent De contenir ses égos, de limiter ses comportements dysfonctionnels. On les a observés, on les observe toujours. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de formation, parce que la formation nous permet, et nous a permis au lancement de la coopérative justement, tout en nous respectant, tout en nous écoutant, tout en nous estimant, en nous donnant des signes de reconnaissance, de produire des décisions de qualité. Voilà. C'est le deuxième obstacle. Le troisième obstacle, c'est le manque de formation, parce que on sait pas faire. On n'a pas appris à coopérer. On a eu des expériences coopératives dans des associations, dans les syndicats, mais on a aussi eu dans ces mêmes associations ou syndicats des expériences de verticalité avec des gens qui dirigeaient tout et qui laissaient peu la place à d'autres. Voilà. Donc on a besoin d'apprendre si on veut vraiment aller plus loin pour allier coopération, intelligence collective et efficacité. Parce que si on ne sait pas s'y prendre, alors la décision elle est infinie, on ne la prend jamais. C'est chronophage, là. Décider ensemble, ça prend du temps. Il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer, il faut convaincre. Et on peut voir dans certaines réunions des gens qui reviennent en boucle sans arrêt sur un sujet qui n'est jamais traité. Donc on a besoin aussi de formation et d'outils pour gérer les instances de décision, etc.
J'ai quand même quelque chose, parce que moi j'ai dans le passé eu quelques expériences que je pourrais appeler collectives. J'ai été confronté, bien évidemment, aussi à des comportements, un peu centralisateurs, mais je n'ai jamais eu l'impression que ce comportement prenait le dessus par rapport au collectif et au collégial. Donc, quand je t'entends, là, j'ai l'impression que tu ressens ça comme si c'était le qualifier d'obstacle majeur. Alors, ce que je me demande, moi, c'est au moment où les statuts ont été conçus, donc il y a eu un travail au préalable, etc., ces comportements-là n'ont pas été détectés ?
Alors, ces comportements-là, tu le sais peut-être, hein, mais j'ai été formateur pendant 10 ou 15 ans en management, et j'ai travaillé avec des milliers de personnes sur le fonctionnement des réunions, etc. Ces fonctionnements-là, ils existent, et peut-être que chacun d'entre nous, on les porte aussi. Hein, personne n'est parfait. Voilà. D'où l'intérêt que quelqu'un prenne la parole et double ou triple son temps de parole, on le voit tous les jours dans les réunions. Avec ou sans statut, on le voit tous les jours. Voilà. Si on a un outil avec, par exemple, un gardien du temps qui dit « Bon, bah, écoute, là, ça fait 5 minutes que tu parles, on est 12, si chacun fait ça, on ne va jamais finir la réunion. » Toi, c'est des petites choses qui sont basiques. Donc, on a parlé des obstacles, on a parlé des égos, des comportements. Les solutions, c'est effectivement qu'on se mette d'accord, par exemple, qu'on fasse vivre notre charte. Qu'on fasse, par exemple, à chaque réunion, qu'on fasse un point. Sophie et Hector, nos deux salariés, nous vous ont proposé, il n'y a pas longtemps, dans une réunion, de faire une petite météo. Elle était utile. Moi, je suis arrivé, j'étais vraiment fatigué, énervé, etc. Et quand on arrive fatigué, énervé dans une réunion, on risque d'être dysfonctionnel. Aussi gentil soit-on, aussi de bonnes intentions soit-on. Donc, si à un moment donné, j'arrive en disant je suis très énervé, si à un moment donné je parle sèchement à quelqu'un, l'autre va comprendre que ça n'a aucun rapport avec lui, que c'est juste mon problème à moi. Tu vois, il y a des petits outils comme ça.
Donc expliciter l'état psychophysique dans lequel...
C'est juste un exemple. Et fin de la réunion aussi, se mettre d'accord sur est-ce qu'on a... Il y a beaucoup de réunions au dernier conseil coopératif, on n'a pas traité tous les sujets. Mais on était fatigués. Parce que des sujets hors de l'ordre du jour ont été traités, qui ont embolisé ce genre de choses. Si dans un conseil comparatif, il y a quelqu'un qui était chargé de veiller à la bonne, au bon suivi de nos pratiques, on les connaît. Mais personne n'est chargé de veiller aux bonnes pratiques. Donc, par exemple, on se met d'accord, on va suivre une bonne pratique, et il y a un gardien, il y a une garde-fou qui va dire, hé là, je crois qu'on sort un peu de nos trucs. Et tout le monde, avec bienveillance, va se recentrer sur l'ordre du jour, ce qui n'empêchera pas à la fin de la réunion de discuter, d'être dans le non-formel, voilà. Donc, il y a un des obstacles, c'est le non-respect de nos bonnes pratiques. Il suffit, on a édité une charte, on ne la respecte pas. On ne la respecte pas suffisamment, on ne la met pas en œuvre. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on a tous les outils qu'il nous faut. Et on est un peu aussi, au niveau de la gouvernance, à la croisée des chemins. C'est-à-dire maintenant, on n'a pas le choix. Il faut les mettre en œuvre. On va passer une période dans laquelle on n'aura pas directeur général. Et donc, personne pour...
Ah, pas un seul, si j'ai bien compris.
On aura trois responsables qui ont une signature. il est dans leurs mains maintenant de veiller à ce que la gouvernance soit réellement partagée, à ce que les décisions soient vraiment comprises et prises collectivement. C'est dans nos mains, et je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de le faire. Et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité quitter cette fonction, parce que c'est confortable pour tout le monde de se reposer sur une personne qui, voilà, maintenant, il va falloir que cette fonction de tenir, de tous nous tenir ensemble, de coopérer, soit portée par l'ensemble des administrateurs.
Bon, je crois que nous avons juste le temps de faire une sorte de petite synthèse rapide, si tu n'as rien à ajouter concernant les pistes éventuelles pour améliorer les pratiques actuelles, parce que si j'ai bien compris, en fait, il s'agit, comme on fait dans la plupart des réunions, au préalable, en amont, on décide qui est le président de la réunion en question, qui est le secrétaire de séance, etc. Donc, effectivement, une sorte de distribution de rôles au préalable pour que ces personnes-là exercent un pouvoir, entre guillemets, pour faire en sorte que la réunion se déroule dans les meilleures conditions possibles et qu'elle soit efficace.
Alors, ce que tu viens de citer, c'est le minimum.
Oui, bien sûr.
C'est le minimum. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui distribue le temps, mais quelle est la règle? Est-ce qu'on peut parler une demi-heure? Ben non, c'est pas possible. On est 13, c'est pas possible. Voilà.
C'est clair.
Donc les interventions doivent être brèves et concises. Il faut qu'on se le redise et qu'on y veille. Voilà. Piste d'amélioration, il y en a plusieurs. On est une coopérative. On a des collectivités avec nous. On a des entreprises, on a des associations. Je pense qu'on peut aller. Il faudra que dans les 3 ans qui viennent, on travaille davantage à associer les autres parties prenantes. On a lancé des projets, par exemple avec 9 collectivités. On n'a pas encore réuni ces 9 collectivités au bout de 2 ou 3 ans pour discuter avec elles de ces projets, de regarder comment on peut aller plus loin. On est une coopérative. Hein. Pour l'instant, on essaie de coopérer entre nous, administrateurs, mais on a d'autres. Il y a d'autres catégories d'administrateurs, de sociétaires avec qui on pourrait aller vers plus de partage de la décision. Ça, c'est une des pistes. Une autre piste, ça serait un autre gros mot qui sera peut-être le sujet d'un autre, l'agilité. On n'est pas suffisamment efficace. On passe beaucoup de temps sur les choses non essentielles qui nous permettent peut-être parfois d'éviter des choses essentielles. Donc, mieux gérer nos ressources en termes de temps, en termes d'intelligence, etc.
Bien. Je crois que ça va être le mot de la fin, mes amis. Merci pour votre écoute. Merci encore, Yves, pour votre intervention très documentée. Et à très bientôt, j'espère.
CFM. CFM. CFM Radio. CFM Villefranche.